Chapitre 48.
Vous aurez besoin d'une thermopompe, dit Prospero.
Pourquoi ? Fit Harman d'une voix distraite.
Il contemplait par les portes vitrées les splendides dômes et les arches de marbre du Taj Mahal. La cabine s'était immobilisée sur la tour sud-est. Il en avait une à chaque coin du gigantesque carré de marbre posé au sommet du Chomolungma qui servait de base à l'édifice. Si Harman ne se trompait pas, et si chaque tour faisait 300 mètres de haut, alors l'apex du dôme le plus élevé atteignait 450 mètres de hauteur.
« Nous nous trouvons à une altitude de 8848 mètres, » dit le mage. « L'atmosphère est donc fort ténue. La température au soleil est de 35 degrés au-dessous de zéro. Cette douce brise souffle à 80 km à l'heure. Il y a une thermopompe bleue dans l'armoire à côté du lit. Allez l'enfiler. Passez vos vêtements et vos bottes par-dessus. Appelez-moi quand vous aurez mis votre masque osmotique. Je dois dépressuriser la cabine avant d'ouvrir la porte de la mezzanine. »
Ils prirent un ascenseur pour descendre au pied de la tour. Harman en profita pour examiner les piliers, les poutres et les arches, et il ne put retenir un sourire. Le secret de leur blancheur était des plus banales. Une couche de peinture blanche sur l'acier noir. Puis il sentit vibrer la cabine, non, la tour tout entière, et se dit que les vents déchaînés devaient arracher la peinture en l'espace de quelques mois, voire de quelques semaines. Il s'efforça d'imaginer une équipe de peintres venant régulièrement passer une nouvelle couche, puis jugea cette idée stupide. S'il avait décidé d'obéir au mage, c'était parce que cela le libérait de cette prison qu'était l'Efelban. Quelque part, dans cette monstruosité des sommets, temple, palais ou tombe peu lui importait, il trouverait sûrement un moyen de rejoindre Ada. Ariel était capable de se faxer sans l'aide d'un pavillon, alors lui aussi. Même s'il ignorait encore comment s'y prendre. Prospero sortit de la cabine, et Harman le suivit sur une vaste esplanade de grès rouge et de marbre blanc au bout de laquelle se trouvait la porte principale. Le vent manqua le faire tomber à la renverse, mais il remarqua que le sol était vierge de toute plaque de verglas.
« Les mages n'ont pas besoin d'air et sont invulnérables au froid, on dirait »
cria-t-il au vieil homme en robe bleue.
« En effet !»
répondit ce dernier. Le vent gonflait sa robe à la façon d'une voile et ses longs cheveux gris flottaient derrière lui comme une oriflamme.
« Un des privilèges de l'âge !»
ajouta-t-il en hurlant à plein poumon. Écartant les bras pour assurer son équilibre, Harman obliqua à droite pour se diriger vers la petite balustrade en marbre, elle faisait à peine 60 cm de haut, qui courait autour de l'esplanade rouge et blanc, comme une barrière de sécurité saignant une patinoire.
« Où allez-vous »
lança Prospero.
« Faites attention !»
Arrivé devant la balustrade, Harman se pencha. Par la suite, en consultant diverses cartes, il comprendrait qu'il avait embrassé du regard la contrée située au nord de cette montagne, Chomolungma, Chumulangmafeng, Komolangmafeng, Otepma, Chinikarauza ou Everest, cela dépendait de l'époque et de l'origine de la carte, que devant lui s'étendaient sur plusieurs centaines de kilomètres et 8000 mètres plus bas, des pays jadis nommés le 9e royaume de Khan, le Tibet et la Chine. 8000 mètres plus bas. Ce fut ce détail qui le marqua le plus. Le Taj Mahal était en fait un édifice de marbre et de grès posé sur le sommet de la déesse mère du monde, un peu comme un plateau en équilibre sur un rocher, ou encore comme une feuille de papier fichée sur une pointe. Sur le plan de l'ingénierie, le résultat tenait du miracle teinté d'esbrouf, une démonstration dont l'idée n'avait pu germer que dans le cerveau d'un dieu infantile. Planté devant la balustrade de 60 cm de haut sur 25 d'épaisseur, Harman se tenait au-dessus d'un gouffre de près de 9000 mètres de profondeur, vers lequel un vent violent le poussait inexorablement. Par la suite, il identifierait toutes ces montagnes grâce à diverses cartes où figureraient aussi les glaciers de Rongbuk et les plaines de la Chine, visibles près de l'horizon, mais pour le moment, il s'en souciait comme d'une guigne. Tout en battant désespérément des bras pour compenser la poussée du vent, il se répétait encore et encore « 9000 mètres. Une chute de 9000 mètres. » Il tomba à quatre pattes et rampa vers le mage qui l'attendait devant la porte. À une dizaine de mètres de celle-ci se dressait un petit roc pointu. Il faisait à peine 1,50 m de haut, surmonté d'une pyramide de 60 cm. Sous les yeux d'un Prospero amusé, Armand serra cet ornement dans ses bras et s'accrocha à ses aspérités pour se redresser. Et il resta là, à étreindre ce stupide rocher, le menton posé sur sa pointe glacée, paralysé par la peur du vide et l'idée de contempler à nouveau l'abîme dont seul le protégeait cette ridicule balustrade. Il ferma les yeux.
« Vous comptez passer la journée ici ?» demanda le mage. « Peut-être !»
dit Armand sans rouvrir les yeux. Au bout d'une minute, il ajouta, criant à tue-tête pour couvrir le bruit du vent.
« Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un symbole? Un monument ?»« C'est le sommet du Chomo Lungma !»
répondit Prospero. Le mage pivota sur ses talons et franchit l'arche aux formes élégantes qui servaient de porte à l'édifice qu'il avait appelé Rongbok Pumori Chumu Langma Feng Dud Kosi Lotsenupse Kumbu Aga Gatmandir Kan Otep Rausa. Armand vit que cette entrée était protégée par une membrane semi-perméable. Elle avait ondoyé au passage du mage, encore un signe tendant à prouver que ce dernier n'était pas un simple hologramme. Au bout de quelques minutes, durant lesquelles il resta farouchement accroché au sommet, tandis que de violentes bourrasques déposaient une couche de neige sur les lunettes de sa cagoule et sur son masque osmotique, il se dit qu'il faisait sans doute bien chaud à l'intérieur de cet édifice, à l'abri du champ de force de la membrane semi-perméable. S'il ne parcourut pas en rampant les 10 mètres qui l'en séparaient, il avança néanmoins le dos courbé, les mains tendues vers l'avant, prêt à ramper si cela se révélait nécessaire. À l'intérieur de l'immense dôme, des escaliers de marbre permettaient d'accéder à une série de mezzanines, dont chacune était reliée par un escalier à celle qui la surmontait. L'ensemble tapissant l'intérieur de la paroi incurvée sur une bonne centaine de niveaux, de sorte qu'une perspective vertigineuse finissait par engloutir l'apex du dôme dans les hauteurs. Depuis la cabine du téléphérique, Armand avait cru apercevoir de minuscules ouvertures dans la paroi, des fioritures décoratives, rien de plus. Mais il constata qu'il s'agissait en fait d'une multitude de fenêtres en éther glace, grâce auxquelles des rayons lumineux paraient de rectangles et de losanges multicolores, des milliers de livres aux reliures somptueuses.
« À votre avis, combien de temps vous faudrait-il pour sigler tout cela ?» demanda Prospero, qui s'appuya sur son bâton et tourna sur lui-même, afin d'embrasser du regard la totalité des bibliothèques.
Armand ouvrit la bouche, puis la referma, ne sachant quoi répondre. Des semaines? Des mois? Il mettrait des années rien que pour aller d'un livre à l'autre, d'une mezzanine à l'autre.
Vous m'avez dit que les fonctions n'étaient pas opératoires dans les Felban, dit-il finalement. La règle du jeu a donc changé?
Nous verrons.
Le mage s'enfonça dans le dôme, dont l'acoustique parfaite renvoya les échos de son bâton frappant le marbre. Armand se rendit compte qu'il avait chaud. Il abaissa sa cagoule et retira ses thermogans. L'intérieur de l'édifice était divisé en espaces, sinon en pièces, par un labyrinthe de cloisons en marbre blanc d'un peu moins de 2,50 m de hauteur, délicatement ajouré de motifs en forme d'ovale, de cœur ou de fleurs, grâce auxquels le regard portait relativement loin. Armand remarqua que la paroi du dôme était recouverte jusqu'à une hauteur de 12 mètres, qui correspondait au premier niveau de mezzanine, de sculptures représentant des fleurs, des vignes et des plantes sinueuses, rehaussées par des incrustations de joyaux. Il en allait de même des cloisons. Armand laissa courir sa main sur l'une de ces dernières, alors que Prospero le guidait dans le labyrinthe, car c'en était un, se rendant compte que les pierres précieuses devaient se compter par millions. Certaines des sculptures couvraient à peine quelques centimètres carrés et contenaient une bonne cinquantaine de joyaux.
Que sont ces pierres ? Demanda-t-il.
Ses semblables connaissaient l'usage des bijoux que les serviteurs leur procuraient jadis à la demande, mais jamais ils ne s'étaient interrogés sur leur origine.
« Parmi ces pierres, on trouve des agates, des jaspes, des lapis-lazuli, des héliotropes et des cornalines. La petite feuille que voici contient à elle seule plus de 35 variétés de cornalines. Vous la voyez ?»
Armand opina. Cet endroit lui donnait le vertige.
Sous l'effet des trapézoïdes de lumière qui rampaient sur le mur ouest, le marbre scintillait, étincelait, chatoyait. Le soleil caressait les joyaux de ses éclats.
Quel est cet endroit ?
S'enquit Harman qui s'aperçut qu'il chuchotait.
À l'origine, il s'agissait d'un mausolée, d'une tombe.
Le mage négocia une série de cloisons pour se diriger vers le centre du labyrinthe, avec autant d'assurance que s'il suivait des flèches peintes sur le sol. Ils firent halte devant un édifice de forme rectangulaire, dont la porte était surmontée d'une arche.
« Pouvez-vous lire cette stèle, Harman Dardis ?»
Harman examina les lettres gravées dans le marbre à la lumière laiteuse. Leur dessin était étrange, tout en rondeur et en sinuosité plutôt qu'en angle et en ligne droite, mais l'inscription était néanmoins en anglais standard.
« Lisez à haute voix !» ordonna Prospero.
« Entrez avec révérence dans l'illustre sépulture de Khanhotep, seigneur de l'Asie et protecteur de la Terre, et de son épouse bien-aimée Lias Lo-Amumja, adorée du monde entier. Elle a quitté ce monde transitoire durant la 14e nuit du mois de Rabat-Septem, en l'an 887 du Khanat. Son seigneur et elle demeurent dans le firmament et veillent sur vous qui entrez ici.
« Qu'en pensez-vous ? » demanda le mage.
Il se tenait sur le seuil de l'édifice, seul pour l'instant à avoir un aperçu sur le centre du labyrinthe.
« De l'inscription ou de cet endroit ?»«
Des deux !»
répondit le mage. Harman se frotta les joues et le menton, y sentant une barbe râpeuse.
« Cet endroit est anormal, trop grand, trop riche, disproportionné. Sauf pour ce qui est des livres. »
Prospero laissa fuser un rire dont les échos rebondirent de toutes parts.
« Je suis d'accord avec vous, Harman Dardis. Cet endroit n'est qu'une vulgaire copie. Tout ici est copié. Le concept, l'architecture, la décoration, l'esplanade en échiquier devant l'entrée. Tout, sauf les livres et les mezzanines qui sont postérieurs de 6 siècles et dus à Rajar le Silencieux, un lointain descendant du redoutable Khanhotep. Celui-ci s'est contenté de reproduire le légendaire Taj Mahal en 10 fois plus grand. Le monument originel était splendide, un authentique témoignage d'amour. Il n'en reste plus rien, car notre Khan l'a fait raser afin que seul survive son grotesque mausolée. L'endroit où nous sommes est un témoignage de mégalomanie, point à la ligne.
Son emplacement est intéressant,
commenta Harman à voix basse.
« Oui, » fit Prospero en tirant sur les manches de sa robe. « Un élément essentiel du marché immobilier, aujourd'hui comme à l'époque d'Odysseus. L'emplacement prime sur tout le reste. Suivez-moi. »
Ils entrèrent dans la partie centrale du labyrinthe, une salle carrée de 100 mètres de côté, avec en son milieu ce qui ressemblait à un bassin réfléchissant. Le bâton de Prospero éveillait en ce lieu des échos persistants.
Ce n'était pas un bassin.
« Seigneur Jésus !»
s'exclama Harman en reculant vivement. Apparemment, il avait vu sur le vide. À gauche, à peine visible, le flanc nord de la montagne et au-dessous d'eux, une 12aine de mètres en contrebas, un sarcophage de cristal et d'acier qui flottait dans les airs, survolant le glacier à une altitude de 9000 mètres. Dans ce sarcophage, une femme nue. Un étroit escalier en colimaçon permettait de parvenir à son niveau, dont l'ultime marche débouchait apparemment sur le vide.
« Ce n'est pas possible !» songea Harman.
Il ne sentait aucun souffle d'air alors qu'un vent violent aurait dû s'engouffrer par cette ouverture. Et le sarcophage reposait forcément sur quelque chose. En plissant les yeux, il entreaperçut des facettes, une multitude d'entretoises géodésiques presque invisibles. Cette chambre funéraire était taillée dans une matière transparente, vert, cristal ou plastique. Mais pourquoi n'avait-il pas vu le sarcophage et l'escalier depuis la cabine et...
« La chambre funéraire est invisible de l'extérieur, » dit Prospero à voix basse. « Avez-vous examiné cette femme ?»«
La bien-aimée Lias Lo-Amumja, »
dit Harman qui n'avait aucune envie de reluquer un cadavre nu.
« Celle qui a quitté ce monde transitoire je ne sais plus quand. » « Et le Khan, où est-il ? »
Il n'a pas eu droit à sa chambre de cristal ?
Prospero éclata de rire.
Ah, Khan-Hotep et sa bien-aimée Liaslo Amumja, fille de César Amumja, souverain de l'Empire d'Afrique centrale. Une harpie doublée d'une fiéfée salope, Armand Dardis, croyez-moi sur parole. Ont été jetés par-dessus bord moins de 2 siècles après leur inhumation en ce lieu.
Jetés par-dessus bord ? Répéta Armand.
Leurs corps, en parfait état de conservation, ont été balancés sans cérémonie par-dessus la balustrade à laquelle vous étiez accroché il n'y a pas une demi-heure. Balancés comme des tas d'ordures dans les flots. Les successeurs du Khan, dont l'importance a décru avec le nombre, ont chacun exprimé le désir de reposer ici pour l'éternité, ou jusqu'à ce que le suivant sur la liste se préoccupe de son repos éternel.
Armand comprenait sans peine.
La litanie des Khan s'est interrompue il y a 1400 ans,
poursuivit Prospero en tournant ses yeux bleus vers le sarcophage de verre et de bois.
Cette femme était la bien-aimée d'un puissant, et elle repose ici depuis 1400 ans sans que quiconque ait troublé son sommeil.
Regardez-la bien, Armand Dardis.
Jusque-là, Armand avait détaillé le sarcophage sans trop s'attarder sur le corps qu'il contenait. La nudité de cette femme le mettait mal à l'aise. Elle paraissait beaucoup trop jeune pour une morte. Son corps était d'un rose trop soutenu, ses seins étaient trop gonflés. Même à cette distance, on distinguait nettement le rouge de ses mamelons. Ses courts cheveux noirs se détachaient trop nettement sur les coussins de soie blanche, tout comme le triangle également noir de sa toison pubienne et ses sourcils noirs, ses traits affirmés, sa grande bouche lui semblait beaucoup trop familier.
Seigneur Jésus !
C'était la deuxième fois de la matinée qu'Armand poussait ce cri, mais il le poussa si fort cette fois-ci que les échos en résonnèrent sur les parois du dôme, rebondissant sur les livres et le marbre blanc des mezzanines. Elle était plus jeune, bien plus jeune, avec des cheveux noirs plutôt que gris, un corps jeune et ferme et non plissé de rides par les siècles, comme Armand l'avait observé sous la couche de la thermopeau, mais son visage avait la même force, ses pommettes la même dureté, ses sourcils noirs la même netteté tranchante. Aucun doute n'était possible. C'était sa vie.